Les murmures de l'info.
Radio Shalom Bourgogne.
Lionel Abo, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur Radio Shalom Dijon 97.1 FM. Vous êtes journaliste, producteur, enseignant et créateur d'émissions pour la télévision. Et vous accompagnez les marques dans les stratégies de communication digitale. Et à vos heures perdues, vous êtes aussi auteur de romans. Et vous publiez une trilogie avec Johan Pérez, qui lui a commencé sa carrière comme réalisateur pour la télévision, qui est à présent consultant dans le conseil et la stratégie pour les entreprises et également enseignant en marketing. Et aujourd'hui, vous venez sur nos antennes pour les deux premiers volumes de votre trilogie, qui sont l'affaire Sophie M et Une marque indélébile, qui sont parus aux éditions Hugo Roman, respectivement en juillet et septembre 2023. Et il s'agit d'une comédie policière que vous traitez avec humour et sérieux, et on se délecte.
Bonjour Lionel Labo. Alors, on se demande, nous, comment vous est venue l'idée d'écrire ces deux romans? En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous les décrire et quelle est l'intrigue?
Bien sûr, alors l'intrigue, elle démarre dans une chambre à coucher, celle de Sophie Marceau, qui est retrouvée assassinée près de son lit, son corps sans vie, aucune trace d'effraction, rien, pas le moindre indice, pas la moindre trace ADN, juste un objet qui a l'air de n'avoir rien à faire là. Ces petits jouets en plastique qu'on a quand on est bébé. Une petite Sophie la girafe. L'intrigue commence comme ça, l'intrigue de l'affaire Sophie M commence comme ça. Et deux enquêteurs, Victoire Miller et Gabriel Goldman, vont se rendre compte que plusieurs meurtres portent cette espèce de signature, cet objet qui se retrouve sur des scènes de crime régulièrement et qui n'a rien à y faire. Et c'est ainsi qu'ils vont se lancer dans une enquête qui va les mener vers, on va dire, des univers auxquels ils ne s'attendaient pas. Ça, c'est l'intrigue de l'affaire Sophie M. Et puis, dans Une marque indélébile, on retrouve ces deux personnages. Alors, je ne peux pas vous en dévoiler trop, mais il se trouve que Gabriel va se retrouver fortuitement avec un tatouage sur l'omoplate. Il ne se souvient ni comment, ni pourquoi il l'a. Cette trace indélébile qu'il porte sur le corps et qui contrevient à sa pratique religieuse, puisque c'est un juif pratiquant, ça l'obsède. Il aimerait savoir d'où ça vient et pourquoi il le porte et qui lui a fait ça. Et donc là aussi, il va partir et enquêter là-dessus. Et donc c'est l'intrigue du deuxième roman.
Alors, les deux histoires se suivent mais peuvent être lues indépendamment, même s'il y a un rappel très intelligent du tome 2 vers le tome 1 au milieu du livre. Nous suivons la vie des deux héros, Gabriel Goldman et Victoire Miller, mais ces deux personnages viennent de deux milieux très différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu leur mode de vie?
Absolument. Et vraiment, ce roman, il est quelque part centré autour de ces personnages et autour de leur évolution conjointe. Ce sont deux personnes qui, a priori, n'ont rien à faire l'une avec l'autre. Victoire, c'est un flic chevronné qui vient de Nice, qui a fait la plupart de ses... qui a passé la plus grande partie de sa carrière à Nice, qui est partie à Paris parce qu'en fait elle a vécu un drame à Nice. Elle était parmi les victimes des attentats de juillet qui ont fait des centaines de victimes, dont son compagnon. Et à cette occasion, elle a également subi deux choses. D'une part, elle a perdu le bébé qu'elle portait, et d'autre part, elle est tombée de haut. Du haut de la promenade des Anglais. Et du coup, elle a une blessure à la hanche qu'elle porte et qui la fait boiter et qui l'oblige à marcher avec une canne au quotidien. Et c'est tous ces événements-là dramatiques qui l'ont poussée à quitter Nice et à se rendre à Paris et à travailler à Paris. C'est une personne qui, a priori, qui est une femme moderne dans tous les sens du terme, qui est célibataire et qui va à la rencontre de Gabriel, parce que Gabriel est un jeune officier qu'on va lui imposer, va découvrir et redécouvrir son identité juive. Gabriel, c'est un juif orthodoxe qui a, entre guillemets, fui son destin. Il était destiné à devenir Diane, juge, comme l'était son père, et à continuer à vivre dans un univers orthodoxe, strict. Il a décidé de refuser ce destin-là, de continuer néanmoins à rendre la justice, mais de le faire dans un monde laïque, profane, en devenant policier. Et c'est comme ça qu'il a passé ses diplômes et qu'il est devenu donc flic. Et donc il se retrouve avec cette femme qui a beaucoup plus d'expérience que lui, qui est plus âgée que lui, et avec qui il va apprendre le métier de flic, mais pas que. Entre eux va se nouer une relation forte qui va les faire grandir et qui va quelque part les réparer tous les deux par rapport à leur problématique de départ.
Il y a donc les histoires des deux ouvrages et en toile de fond, tous ces mots, tradition, médecine, art, histoire. Pourquoi vous avez eu envie de mélanger autant de thèmes, ces danses?
Alors, on a voulu en fait, en réalité, se servir du prétexte d'une enquête policière pour raconter la trajectoire de deux personnages qu'on veut et qu'on souhaite voir les plus attachants possibles. Ces deux personnages, quelque part, ils sont aussi issus de notre histoire à Johan et moi. Johan, c'est quelqu'un qui a au départ été réalisateur de télévision et puis qui a on va dire rencontrer la religion et qui aujourd'hui est quelqu'un d'assez pratiquant et pour qui voilà la pratique du judaïsme est au cœur de l'existence. Et quelque part, si on voulait faire un parallèle, Gabriel, c'est un peu lui. Moi, je viens de Nice, j'y ai passé toute mon enfance, je connais bien la ville, j'ai vécu également ces attentats de juillet dans ma chair. Et c'est quelque chose que je voulais aussi raconter. Alors, je dirais pas que je suis Victoire pour plein de raisons, mais voilà, il y a beaucoup aussi de Victoire en moi. Donc, ce duo, c'est un peu le duo d'auteurs qu'on forme aussi avec Johan, et ça nous excitait de nous projeter dans une histoire qui n'a rien à voir avec notre vie, quoi.
Alors on parle de Johan, justement, l'écriture à quatre mains, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile ou difficile? Et c'est au quotidien?
Alors, c'est au quotidien, absolument. Avec Johan, pour vous raconter un peu, on ne se connaissait pas avant d'écrire. On a fait connaissance. Un jour, il m'a proposé un café. On s'est croisés, on fréquente la même synagogue. Il m'a dit, j'ai appris que tu avais écrit un livre. Moi aussi, j'en ai écrit. Viens, on prend un café, on en parle. On prend un café, on parle de projet, et à la fin du café, on décide d'écrire un livre ensemble. Donc on n'est pas copains, on n'a pas travaillé ensemble avant, etc. C'est une rencontre complètement fortuite. Et donc on a commencé à travailler ensemble et en même temps on a fait connaissance. Et avec Johan, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, c'est un cerveau en fusion. Et donc tout notre sujet, c'est quotidiennement de brainstormer, de partager des idées et d'essayer de les mettre en ordre pour que à la fin, ça forme une histoire. Et comment on travaille ensemble? On définit la structure, l'histoire, les personnages ensemble. Ensuite, moi, j'écris. Et sur la base de ce que j'ai écrit, on partage, on commente, on change. Mais disons que la plume, c'est toujours moi qui la tiens.
Justement, on se disait que l'écriture était assez télégénique, type presque série télévisée. Est-ce que vous avez l'intention ou l'opportunité de filmer et de transformer vos ouvrages en film? Et si oui, est-ce que vous avez une idée des acteurs, Sophie Marceau?
Oui, alors pour la petite anecdote, le livre L'affaire Sophie M lui a été remis de façon complètement fortuite. C'est une lectrice qui l'avait dans son sac, qui avait le livre dans son sac, qui l'a croisé au marché et qui lui a dit, vous savez, ce livre parle de vous, vous devriez le lire, et elle lui a filé. Voilà, on n'a pas eu depuis d'appel, mais en même temps, on n'avait pas notre numéro de téléphone dans le livre, donc c'est compliqué. Mais en tous les cas, si Sophie Marceau veut participer au casting, ce serait avec plaisir. Et effectivement, même le personnage de Victoire, en réalité, pourrait ressembler à Sophie Marceau, en tous les cas, dans les traits qu'on imagine. Le personnage de Gabriel, lui, on imaginait plus un Pierre Niney, dans le côté à la fois, enfin, des traits forts, mais très fins aussi, et un côté juvénile que moi je trouve intéressant.
Alors, justement, on aime dans l'écriture la dissémination discrète mais intelligente des références comiques, analogiques, les artistes, donc Sophie Marceau, bien sûr, mais aussi Jean-Jacques Goldman avec ses chansons Entre gris clair et gris foncé, Daniel Lévy, les séries télévisées comme 10% avec l'agence Ask, le vécu des auteurs et les références des années 80, bien sûr, le Covid et la politique actuelle. C'est une écriture qui fait appel à notre vie quotidienne. Comment vous faites pour les introduire dans les romans?
Il y a deux choses. Il y a un, effectivement, avec Johan, on est de la même génération, donc on a les mêmes références culturelles, et donc du coup, c'est simple pour nous de les intégrer dans l'histoire, et c'est quelque chose qu'on aime. Deux, on voulait et on souhaite que tout ce qui, en dehors de l'intrigue, dans nos romans, tout est vrai. On a beaucoup enquêté, par exemple, sur l'usine qui fabrique les Sophie la girafe pour pouvoir la décrire la plus minutieusement possible dans le premier roman. Les personnages on a utilisé volontairement les vrais noms. Le tatoueur qu'il y a dans le deuxième livre, Tintin, c'est quelqu'un qu'on a côtoyé, qu'on est allé voir pour qu'il nous montre comment il tatoue, de quelle façon, comment ça se passe dans un salon de tatouage, etc. Donc on veut le plus possible ancrer nos romans dans la réalité avec de vrais lieux, de vraies personnes, etc. La seule chose qui n'existe pas finalement, c'est l'histoire qu'on leur invente. Mais pour le reste, tout est vrai.
Alors, on voyage beaucoup entre les deux tomes, d'un continent à un autre. Ça, c'était aussi pour vous, exprimer, différemment les choses entre les pays.
Oui, et puis pour nous, lire un roman et écrire un roman, c'est une aventure. Et une aventure, ça fait voyager. Et donc oui, on est sur une enquête qui va nous mener de Paris au Kenya, en passant par les États-Unis, etc. On trouve que c'est intéressant de se dire que le monde entier est notre terrain de jeu. Et donc nous, on s'est amusé avec ça.
Alors, une petite note émouvante. On a particulièrement aimé, dans les deux tomes d'ailleurs, les remerciements, la référence aux EI, à vos amis des EI, à l'enfant que vous êtes et aux enfants autour de vous, et aussi à votre maman. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, mes parents m'ont toujours poussé à essayer de réaliser les rêves, même les plus inaccessibles. Moi, j'aime écrire depuis que je suis tout petit. Et depuis que je suis tout petit, la seule matière dans laquelle j'étais fort à l'école, c'était en rédaction. En cours de français. Et donc voilà, ils m'ont toujours poussé là-dedans. Et donc c'est une façon de leur rendre hommage. Effectivement, je trouve que c'est important. Je pense que vos auditeurs le vivent aussi en tant que parents, de donner des ambitions à ses enfants et de pas leur donner de limites à ses ambitions. Et donc c'est ce qu'ont fait mes parents. De ce point de vue-là, je ne peux que les remercier. Et donc le fait de dire un petit mot au sujet de mon père dans le premier roman, au sujet de ma mère dans le deuxième, était important pour moi.
Le lecteur est amené à se poser une réflexion philosophique à la fin du tome 2 et vous lui permettez même d'adresser une candidature parce que vous mettez un mail. Alors, c'est original. Le mail, si des gens ont envie de lire et d'écrire, c'est une marque indélébile à gmail.com. Expliquez-nous cette démarche. Est-ce que vous avez déjà eu des réponses d'ailleurs?
On en a eu pas mal, ouais, absolument. Et puis au-delà des mails, on reçoit régulièrement, quasiment quotidiennement, des messages de lecteurs qui, au-delà de nous raconter ce qu'ils ont pensé de l'intrigue, nous expliquent qu'effectivement, ces romans, et particulièrement le deuxième, les ont amenés à se poser plein de questions. Et la question que pose enfin, le deuxième roman, c'est finalement quel est le prix de chacun d'entre nous? Pour quelle somme d'argent on est prêt à accepter des décisions qui ne sont pas les nôtres? Je pense que dans la société qui est la nôtre, c'est une question que on est souvent amené à se poser, que ce soit dans le choix de son métier, est-ce que je suis prêt à être payé pour faire un métier qui ne me plaît pas, dans le choix de son, dans ce, de son quotidien. Et donc voilà, c'est la question évidemment grandiloquente que pose le roman. Et on a eu des réponses, on a eu des réponses. Mais je vous retourne la question, pour quel prix vous seriez prêt à accepter une décision dans votre vie qui n'est pas la vôtre? Pour quel prix vous accepteriez par exemple un tatouage sur votre omoplate?
Je déteste ça.
En tout cas, moi, j'ai testé l'adresse email et elle fonctionne puisqu'on m'a répondu. Et c'est formidable. Donc, je conseille à nos auditeurs de lire le livre et de tester l'adresse email également. Il y a enfin un podcast, je crois, du deuxième tome sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts et Amazon. Et bien sûr, on attend avec impatience le dernier tome de cette trilogie qui, j'espère, est déjà en écriture.
Absolument.
Et on espère pouvoir faire un nouvel entretien et on attend aussi la série télévisée. Donc, on vous remercie beaucoup, Lionel Abbo, de nous avoir accordé cet entretien sur Radio Shalom Dijon 97.fm. On pourra le retrouver en streaming, en podcast, sur nos ondes 97.1 et www.shalombourgogne.com. Et on vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup.
Les murmures de l'info.
Radio Shalom Bourgogne.